France Musique. Musicopolis. Les cancans de l'opéra ou le journal d'une habilleuse. Ce journal d'une habilleuse, aussi appelé Cancan de l'Opéra, est un texte manuscrit conservé à la bibliothèque de l'Opéra. Écrit entre 1836 et 1848, il n'a pas pu être publié à cette époque, en raison même de son sujet, les cancans. C'est qu'en effet, une grande partie de ce qui est raconté là est de l'ordre de l'indiscrétion. Commérage, ragots, certainement de première main, sans doute véridiques pour la plupart et avec abondantes citations de noms connus. Ce qui explique bien sûr qu'aucun éditeur ne se risque à l'époque à se lancer dans une publication. En l'an 2000, en revanche, les éditions du CNRS en ont fait deux volumes, abondamment enrichis de notes, d'introductions, d'annexes historiques, de chronologie de l'opéra, grâce à l'érudition d'un amoureux de l'art lyrique, Jean-Louis Tamvaco. Aujourd'hui, les cancans proprement dits de l'opéra des années 1830 ne nous disent plus grand-chose. Du moins, toutes ces notes prises au fil des jours par un certain Louis Gentil, contrôleur du matériel de la grande maison, qui se cache sous le déguisement d'une habilleuse, ont-elles le don de nous transporter dans le Paris du 19e siècle, dans le théâtre de la rue Le Pelletier, où se mêlent les hommes de la haute bourgeoisie en quête de bonne fortune, avec tout le peuple bigarré nécessaire à une représentation d'opéra, des premières chanteuses et danseuses sur le devant de la scène, aux derniers machinistes des dessous. Au milieu de l'année 1835, le docteur Véron, directeur de l'opéra depuis 3 ans et qui, le premier depuis Lully, a réussi à faire fortune à la tête de l'établissement, décide, à la surprise générale, de démissionner. Pourtant, tout semble aller pour le mieux. Déjà avant son arrivée, avaient été créés la muette de Portici d'Aubert et Guillaume Tell de Rossini, capables à eux deux d'assurer un bon fond de roulement de recettes. Puis Véron lui-même a monté le ballet La Sylphide, plébiscité, et 2 opéras qui ont obtenu un succès durable, Robert le Diable de Meyerbeer et La Juive d'Halévy. Il laisse donc une entreprise en parfait état de marche à son successeur Duponchel. Lorsque je parle d'entreprise à propos de l'Opéra de Paris, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et d'ailleurs, parmi les cancans rapportés par notre habilleuse, on trouve quelques pages très pragmatiques qui en donnent une description précise. Le personnel en activité, écrit l'habilleuse, est de 660 artistes, figurants et comparses, ouvriers, préposés, employés de toutes sortes, qui coûtent en traitement par année 960 000 francs et qui sont conduits par un directeur, un administrateur, des inspecteurs, des chefs et des sous-chefs de service au nombre de 25. Cet état-major, en appointement et remise, ne coûte pas moins de 60 000 francs. Le personnel en retraite, au nombre de 220, coûte 225 000 francs. Total des dépenses pour un personnel de 880 personnes, dont 220 en retraite, 1 215 000. Les autres frais d'exploitation arrivent à peu près à la somme de 535 000 francs. On croirait un rapport de la Cour des comptes. On le voit, le budget de l'Opéra de Paris en 1836 est celui d'une belle entreprise. Duponchel, le nouveau directeur, continue cette année-là l'œuvre de Véron en créant les Huguenots et le Diable boiteux. On dit que c'est à l'époque la première salle de spectacle du monde et qui donne des représentations au faste éblouissant, où tout bien sûr est réglé, si vous me permettez cette boutade, comme du papier à musique. Dans ses cancans, notre fausse habilleuse consacre un article éclairant à la mécanique de l'opéra. La distribution exacte et minutieuse du temps, nous dit-elle, importe beaucoup aux affaires de l'Académie royale de musique, comme à tout spectacle qui emploie de grandes mises en scène. Personnes à vêtir, à coiffer, à grimer exigent presque tout le secours de mains étrangères, opérant dans un espace de temps très restreint. C'est à l'aide d'un pendule régulateur que l'on constate leur présence au lieu où il leur est accordé quelques minutes pour se costumer. Il faut des horloges bien réglées dans tous les endroits où se réunissent les acteurs, les figurants, les comparses. L'opéra compte 7 à 8 horloges à sonnerie et à cadran qu'un entrepreneur monte, nettoie et raccommode au besoin pour la jouissance d'une entrée gratuite ordinairement. Oh, c'est Cornélie Falcon qui a créé le rôle de Rachel dans La Juive de Halévy, grand succès de l'opéra en 1835 et qui perdure les années suivantes. La soprano suscite les commentaires plutôt bienveillants de la billeuse de l'opéra dans ses cancans. Le fait est, raconte-t-elle, que Falcon a eu de l'amitié pour ses maîtres sans que le Bordonnier et M. Adolphe, qui prenaient feu pour elle dans la leçon, aient jamais réussi à lui montrer autre chose que leur gamme. Aussi disait-il dans le particulier que Cornélie n'avait qu'à la scène le tempérament chaud et une âme brûlante. Mais Cornélie n'a écouté personne. C'est positif, foi d'habilleuse bien renseignée. Elle entend rester maîtresse d'elle-même pour briller à l'opéra et faire du bien à sa famille, qui est très nombreuse et dont elle est à présent le seul soutien. Quant à cela, c'est une brave fille qui n'a en tête et au cœur jusqu'à présent, on peut le dire hardiment, que son état et sa famille. Cornélie Falcon est également la créatrice du rôle de Valentine dans Les Huguenots de Meyerbeer, où, comme dans La Juive, elle partage la vedette avec Adolphe Nourry, qui tient alors le rôle de Raoul de Nangis. La billeuse des cancans de l'opéra raconte une petite fête privée pendant une représentation. Cornélie Falcon, nous dit-elle, a pendu la crémaillère aujourd'hui dans sa nouvelle loge, somptueusement décorée et meublée aux frais de M. Duponchel, entre le premier et le deuxième acte des Huguenots. Son habilleuse, qui ne manque jamais les bonnes aubaines, a introduit dans la grande pièce, disposée en tente, de ce petit appartement où se trouvent une jolie cheminée en marbre blanc, deux grandes glaces, un vaste canapé, des fauteuils et des tabourets, garnis d'une étoffe très élégante, les invités par Madame Falcon-Mère et sa demoiselle. Raoul de Nangis est donc venu partager avec Valentine le sorbet au rhum et la glace à la vanille qu'elle présentait à ses hôtes de ses belles mains non gantées. Yeah. si les chanteurs et chanteuses ont droit à une place importante dans les cancans de l'opéra, ce récit d'une prétendue habilleuse en réalité le contrôleur du matériel de la maison, les danseuses sont encore plus souvent décrites dans leurs petits travers et leurs frasques amoureuses. Mais parfois l'auteur ne peut éviter des compliments. Le mois de juin, affirme-t-il en 1836, sera célèbre à l'opéra par les représentations du ballet du Diable boiteux, dans lequel tous nos messieurs s'accordent à louer la gentillesse d'actrice et les grâces espagnoles de Fanny Elsler. De mémoire d'habilleuse et d'habituée de l'opéra, aucun pas n'avait produit sur le public plus d'effet que la cachucha. Trois solos très courts, où Fanny s'accompagne avec les castagnettes, jetèrent les spectateurs dans l'ivresse. À entendre les cris de ceux-ci, les soupirs de ceux-là, succéder à une attention extatique, on doit croire à la puissance du magnétisme. Les femmes elles-mêmes se surprennent à imiter les mouvements du corps si souple de Fanny. C'est un charme, c'est un délire. C'est aussi la première fois qu'on a vu redemander à une danseuse la répétition de son pas. La grande Taglioni, avec sa danse surhumaine, n'a jamais eu cet honneur. Le journal d'une habilleuse ou cancan de l'opéra fourmille d'anecdotes et Musicopolis y reviendra certainement. Mais je terminerai pour aujourd'hui avec un article intitulé « Les bons juges des ouvrages » et qui s'intéresse aux machinistes. « Nul mieux que cet ouvrier, écrit l'habilleuse, ne prédira la durée d'une pièce et le nombre de représentations productives qu'elle aura. Depuis 10 à 12 ans, il assiste à toutes les études de la scène. Son goût n'en est point blasé, ni son tact émoussé. » Sans indifférence pour ce qu'il voit et entend, il est rarement ennuyé ou contrarié. Sa perception reste nette et son jugement sain. Les auteurs, les directeurs consultent leurs amis. Ils leur demandent des conseils pour ajouter, ôter ou changer à l'ouvrage. C'est juste. Mais pour en retrancher les longueurs, les inutilités, pour estimer à l'avance l'effet et la portée de leur scène, qu'ils s'en rapportent à nos machinistes. Voilà les vrais indicateurs des beautés ou des défauts de mise en scène d'une composition à l'opéra. L'ouvrier n'est pas flatteur, et sa parole, expression toujours sincère d'une impression naturelle, est un arrêt que la majorité de la salle ratifiera tôt ou tard infailliblement. Le final des Huguenots de Meyerbeer avec Françoise Paulet, soprano, Richard Leitch, ténor, le chœur et l'orchestre philharmonique de Montpellier, dirigé par Cyril Diederichs. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Claire Levasseur pour le mixage et Clément Diaz pour le site. À réécouter sur francemusique.fr.